La France a bien du mal à trouver une solution à ce problème.
À partir de vendredi prochain, les choses vont sûrement changer.
Attendez une minute là.
Bonjour à vous. Un autre monde possible, le rendez-vous mensuel d'Attaque Pays d'Arles, tous les premiers mercredis de chaque mois de 18h10 à 18h40 sur 3DFM. Un autre monde possible, c'est possible.
Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission d'Attaque Pays d'Arles, la 40e du genre. Nous allons aborder deux thèmes de politique publique aujourd'hui, le logement social et les partenariats public-privé. On a ainsi pu aborder ces deux thèmes lors d'ateliers très intéressants à l'Université d'Attaque cet été en juillet à Nîmes.
Bonjour Vincent, alors par quoi va-t-on commencer ?
Allons-y pour le logement social. Il convient de commencer en rappelant que le droit à se loger est fondamental et remplit un besoin primaire de survie. C'est un droit inaliénable et il est opposable à l'État depuis 2007 et la loi Dalo du droit au logement opposable.
Oui, autant dire que la demande est toujours aussi forte et l'offre de logements insuffisante en France. Parallèlement, l'image des logements sociaux et des grands ensembles s'est largement dégradée.
Oui, mais revenons en arrière. Hiver 1954, l'abbé Pierre lance son appel. À l'époque, dans la plupart des cas, les logements sont vétustes et dégradés. Peu disposent de sanitaires ou de WC intérieurs. L'eau courante est à peine dans la moitié des logements. Jusqu'en 1953, le nombre de constructions réalisées par l'État reste limité, mis à part les reconstructions dues à la guerre, avec par exemple le plan Vago à Arles. Avec l'appel, la construction de grands ensembles démarre et le logement devient une affaire d'État qui finance près de 80% des 8 millions de logements construits entre 1953 et 1975 grâce à une aide publique.
Le boom immobilier donc. Mais qui sont les habitants de ces nouveaux logements dans un premier temps ?
Les populations logées varient suivant les villes. Ce sont des familles françaises chargées d'enfants du baby boom, souvent des migrants provinciaux. On retrouve également des populations de rapatriés de la décolonisation, notamment de l'Algérie. Au début, il y a peu de personnes âgées et d'adolescents. Ces familles de salariés sont sélectionnées par les gestionnaires des cités de logement social et non par le véritable libre jeu du marché immobilier. À Arles, les cités ouvrières ont été construites plus tôt que dans la moyenne nationale. Les papeteries Étienne, les ateliers SNCF, les chantiers navals ou encore les salins participent à la construction de nouveaux logements. Les plus pauvres, les familles les plus nombreuses, les populations étrangères et immigrées sont logées dans les taudis des centres anciens ou bidonvilles. Sur le territoire, la population immigrée est aussi destinée aux travaux agricoles et souvent logée directement dans l'exploitation à Saint-Gilles, Vauvert, Arles, Saint-Martin-de-Crau et donc autour du bassin de Nîmes. Ils sont également hébergés dans des foyers de travailleurs migrants. Ces logements spécifiques, avec parfois un fort encadrement de travailleurs sociaux, sont explicitement destinés aux inadaptés sociaux, comme le montre un rapport d'information sur les immigrés âgés présenté par une mission parlementaire en juillet 2013. Pierre-Yves Reberiou, ancien délégué général de la commission interministérielle pour le logement des populations immigrées, a confirmé devant cette mission l'appréciation des historiens et indiqué que les foyers de travailleurs migrants ont été conçus à l'origine à deux fins, toutes deux discriminatoires, produire du sous-logement et faire vivre les immigrés à l'écart de la société. Bel exemple d'intégration. Il a également souligné l'hypocrisie d'un système qui, à partir de 1956, a consisté à faire comme si ces gens ne devaient rester dans ces foyers que quelques années, mais à continuer à en construire sur le même modèle jusqu'au début des années 80.
Oui, c'est la même chose au Qatar en ce moment avec la population immigrée exploitée pour construire les stades de la Coupe du Monde de football de 2022. On a fait la même chose quelques décennies plus tôt.
L'histoire ne se répétait pas. Avant les Maghrébins, c'était les Italiens, Espagnols et Portugais qui ont dû subir l'ire des Français de Chouche. On les appelait les Ritales, les Macaronis, les Babis, les Espingouins pour les Espagnols. Aujourd'hui, la vague d'immigration maghrébine est supplantée par une autre, celle des Roms. Celle des Roms qui, selon la presse, sera le grand thème des municipales de 2014 et dont on entend parler chaque jour dans l'actualité.
Ouais. Et comment a-t-on fait pour passer une situation inverse aujourd'hui en ce qui concerne le peuplement des quartiers HLM ou des grands ensembles ? On retrouve aujourd'hui les populations immigrées dans les mêmes grands ensembles et la classe moyenne et aisée a réinvesti les centres-villes.
Oui, il y a une date clé, c'est 1977. Mais revenons aux années 70, qui sont synonymes d'intenses mouvements de libéralisation. L'État réoriente sa politique et ses crédits vers l'aide aux ménages qui veulent accéder à la propriété individuelle de leur pavillon. Les banques rentrent sur le marché immobilier et la promotion publique s'effondre à partir de 1976. La loi Barre de 1977 privilégie l'aide sélective aux ménages au détriment de l'aide à la pierre et choisit de résoudre la crise naissante des grands ensembles par ce biais. La conséquence est que les classes moyennes quittent les logements sociaux pour les pavillons en accession à la propriété. Les populations paupérisées du centre-ville et les immigrés les remplacent alors peu à peu dans les grands ensembles. Mais le souci d'intégrer les immigrés dans le logement social conduit à des logiques territoriales de regroupement communautaire qui n'ont été ni pensées ni anticipées. Les familles maghrébines deviennent majoritaires.
Oui, aujourd'hui, les pouvoirs publics tentent de rattraper les errements du passé. On parle maintenant de mixité sociale alors que la ségrégation a été sciemment organisée auparavant. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ?
Il faut en premier travailler sur les représentations de chacun. Les grands ensembles sont devenus synonymes de précarité, de pauvreté, mais aussi de délinquance, de trafic et d'insécurité pour ceux de l'extérieur. Ceux qui habitent ces cités ont adopté ces représentations et se les ont appropriées. Ils se sentent victimes de discrimination, de relégation ou d'oubli par les pouvoirs publics. Les bailleurs sociaux ont leur part de responsabilité historique. Certains remplissent leur mission de service public, mais d'autres obéissent seulement à des logiques de rentabilité.
Oui, les bailleurs sociaux sont en effet pour la plupart des organismes privés dotés d'une mission de service public. Le représentant du DAL soulignait ainsi la grande opacité des bailleurs sociaux quant à la communication des profits réalisés. On constate un manque flagrant de transparence sur cette question. Les pouvoirs publics ont un peu perdu la mainmise sur le relogement des populations fragilisées, non ?
Ouais, il ne faut pas oublier que dans le montage financier d'une opération de logement social, l'État, les collectivités locales et Action Logement, c'est-à-dire l'ex 1% logement, aident les organismes HLM en leur attribuant des subventions ou des prêts à taux bonifiés. En contrepartie, l'État, les collectivités et ce même Action Logement bénéficient d'un certain nombre de logements qui leur sont réservés. On parle de contingents réservataires dont le nombre est fonction de ce soutien financier. Par exemple, pour la préfecture, il est à hauteur de 30%, dont 25% sont consacré au relogement des populations fragilisées. Donc c'est la loi qui exprime cela. Concrètement, l'État, les collectivités ont dès lors la possibilité de proposer aux propriétaires bailleurs un candidat pour le logement. Mais disposer d'un contingent ne veut pas dire imposer des locataires à l'organisme HLM, propriétaire de l'immeuble. Dans la réalité, le nombre de ménages relogés sur demande de l'État est toujours inférieur au seuil de 25%. L'attribution d'un logement à un demandeur, prioritaire ou non, a lieu au sein d'une commission d'attribution des logements qui dépend du bailleur. La question du relogement est d'autant plus compliquée à mettre en œuvre que les bailleurs sociaux sont très nombreux à officier sur le territoire, certains étant dans une logique très concurrentielle. Ils se renvoient souvent la balle, ce qui ne favorise pas la coordination du relogement.
Ok. Et Arles, c'est pareil ? La SEMPA, ça fonctionne de la même façon ?
La Cité d'économie mixte du Pays d'Arles a un statut un peu particulier sur le territoire et a au moins le mérite de s'investir socialement dans le quartier en étant présent et en finançant les fêtes de quartier comme par exemple à Griffeuil. Mais il ne faut pas oublier que ce travail est difficile et on a notamment pu voir dans la presse récemment une agression sur un des personnels de la SEMPA. Cette société dispose d'un contrôle politique local plus important que les autres bailleurs, mais on retrouve 13 bailleurs différents sur la commune d'Arles, comme la Fosséenne d'habitation à Trinquetaille, 13 habitats à Montplaisir ou aux Aliscans, encore Erilia, Bariol ou au Trébon. Donc la demande reste pourtant forte et lors du recensement de l'Observatoire département du logement social de 2010, 2159 demandes ont été signalées à Arles, dont 1709 émanant d'habitants de la commune, d'après la Provence du 5 juin 2010.
Et à part la construction de logements, de nouveaux logements, que peut-on faire ?
Alors, c'est le programme local de l'habitat, le PLH, porté par l'agglomération qui pilote la politique publique du logement sur le territoire. Donc il a fixé pour la période 2008-2014 un objectif de 700 logements sociaux construits chaque année sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Dans la réalité, on est plus proche d'une moyenne de 200 logements sociaux construits par an depuis 2008. Mais enfin, cette politique de grands ensembles est terminée. Il faut continuer à développer le logement locatif social dans le diffus et lancer des programmes de construction qui associent locatif social et locatif privé ou logement en accession à la propriété dans un même plan d'urbanisme. Il faut se montrer ouvert mais méfiant sur les programmes de démolition reconstruction de l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. D'une part parce que les démolitions ne sont pas toujours suivies de plus de reconstruction et de nombre de logements en nombre équivalent ou supérieur. D'autre part parce que ces opérations ont tendance à faire augmenter le niveau général des loyers dans la zone concernée. Une autre alternative pour répondre à la demande est de développer l'offre de logement dans le parc locatif privé, ce que s'évertue à faire l'opération programmée d'amélioration de l'habitat OPAH de l'agglomération qui apporte l'aide à la pierre aux particuliers pour rénover leur bâti. À Arles, la proportion de logements vacants dans le privé était ainsi proche de 10% en 2007, selon ce même diagnostic du programme local de l'habitat. On le retrouve principalement dans les quartiers de La Roquette ou de Port-Aniel. Et il faut également lutter contre les marchands de sommeil dans le privé qui logent des populations fragilisées dans des conditions indécentes. Il y a des expérimentations et des partenariats noués entre propriétaires privés et pouvoirs publics en réutilisant notamment des baux peu usités selon un système de gagnant-gagnant.
et sur le plan de la cohésion sociale ?
À mon sens, l'État et les collectivités territoriales doivent pouvoir détenir une plus grande capacité d'action sur l'attribution des logements sociaux, sans pour autant en faire un levier électoraliste, comme cela se pratique souvent. En effet, par exemple, la commune dispose d'un contingent réservataire de 10%. Une problématique particulière se pose sur le territoire avec le vieillissement des populations. On assiste notamment à Arles et à Nîmes, mais aussi à Saint-Gilles ou à Vauvert, à l'arrivée de populations âgées immigrées, notamment les Chibani, qui dorénavant arrivent à l'âge de la retraite et quittent les exploitations agricoles pour venir habiter dans les HLM, en plus de l'habituel contingent de primo-arrivants ou de mouvements liés à la politique du regroupement familial. Les personnes âgées peuvent constituer un levier puissant de médiation envers les jeunes et apporter leur témoignage, transmettre une forme de mémoire de l'immigration et évoquer leur parcours de vie.
Merci Vincent. Après cette longue première partie, un petit morceau de musique.
À rire franc, à rire frais, à rire français. Qu'ils incommodent ce con, le moyen de consommer. Qu'est-ce qu'on attend pour expulser les assistés, les parasites, tous ces minables, ces maillons faibles qui ralentissent le marché.
C'était Marcel et son orchestre.
Alors, pour cette deuxième partie d'émission, Jérôme, tu voulais nous parler des PPP, les partenariats publics-privés.
Oui Vincent, c'est un sigle que je connais depuis quelques années. On peut difficilement s'intéresser à l'actualité sans croiser cette abréviation. Mais faute d'avoir creusé la question, les PPP étaient restés cela, un sigle.
Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir y consacrer la seconde partie de cette émission alors ?
Comme d'habitude, un ensemble de choses et notamment l'envie de comprendre, mais principalement un document qui nous a été remis par le comité de local d'attaque 16, donc attaque Charente, lors de l'université d'été d'attaque qui a eu lieu à Nîmes cet été.
Oui, je m'en souviens, j'ai participé à cet atelier.
Pour ma part, j'ai participé à d'autres ateliers sur une thématique plus liée à l'écologie, à la transition. Je ne le regrette pas, ces ateliers étaient intéressants, mais j'aurais aimé, au vu du document d'attaque Charente, pouvoir également assister à cet atelier-là.
D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un PPP ?
Alors, un PPP, c'est une forme de contrat passé par une institution publique, l'État, les collectivités territoriales, avec un opérateur privé, afin de lui confier la construction et l'entretien d'équipements collectifs coûteux en échange d'un loyer. Les PPP, partenariats publics-privés, tels qu'on les connaît aujourd'hui, sont apparus en Grande-Bretagne en 1992. En France, c'est la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure d'août 2002 qui a relancé ce type de contrat, complété par l'ordonnance du 17 juin 2004. Cette ordonnance de 2004 définit ce qu'on appelle un contrat de partenariat. L'usage du terme PPP s'est peu à peu imposé pour désigner ces seuls contrats de partenariat, bien qu'il existe par ailleurs d'autres formes de partenariat entre collectivités publiques et entreprises privées, notamment les marchés publics. Je vous resitue le contexte politique. 2002, rappelez-vous, Jacques Chirac est réélu en mai pour son deuxième mandat avec 82,21% des suffrages exprimés. C'était il y a un peu plus de 11 ans. Il a enfin à nouveau une majorité à l'Assemblée après 5 années de cohabitation avec le Parti Socialiste et un gouvernement dirigé par Lionel Jospin. Techniquement donc, cette loi est votée au début du deuxième mandat de Chirac. Mais il serait faux de dénier toute responsabilité au Parti Socialiste au pouvoir entre 1997 et 2002. Je vous renvoie dans un premier temps à la déclaration de Lionel Jospin, Premier ministre, au cours du colloque « Reconsidérons la richesse » qui a eu lieu à Paris en mars 2002. Dans ce discours, Lionel Jospin cite les secteurs pour lesquels il considère que les investissements privés sont nécessaires. On retrouve l'eau, l'énergie, la santé et le savoir. Mais attention, apporter y compris aux plus démunis, c'est la caution de gauche. Dans son esprit, conclut-il, ce partenariat public-privé est le contraire même de la dérégulation, de la débudgétisation de ses services. Et plus près de nous, vous pourrez également écouter ou réécouter sur une antenne concurrente de service public la chronique matinale de Brice Couturier intitulée « Public-privé, pas de frontières étanches » en date du 7 mai dernier et dont je vous livre deux extraits. Le premier. En France, c'est sous un gouvernement de gauche, celui de Lionel Jospin, entre 1997 et 2002, qu'ont eu lieu les plus importantes ouvertures de capital entreprises publiques aux investisseurs privés. Aérospatiale, Air France, ASF, Crédit Lyonnais, France Télécom, etc. Ce matin, donc le 7 mai, la presse annonce une nouvelle vague de privatisation destinée à financer un plan d'investissement de 10 ans. L'État songe à vendre des participations d'EDF, de GDF Suez et de France Télécom. Il n'est pas exact que la gauche soit systématiquement étatiste et la droite favorable au privé. Et deuxième partie, dans les grandes social-démocraties scandinaves comme la Suède, les services collectifs sont par exemple gérés par des agences de statut privé que l'État met en concurrence entre elles, afin d'obtenir les meilleurs services au meilleur coût. Mais en France aussi, les services publics se sont adaptés et modernisés. Progressivement et dans une certaine discrétion, le public et le privé s'interpénètrent. Il n'y a plus de frontières étanches entre services publics et activités marchandes qui sont de plus en plus considérées comme complémentaires. Bien des services publics sont gérés de manière mixte, à travers nos bonnes vieilles délégations, mais aussi à travers grâce à des externalisations ou encore des partenariats publics-privés. Brice Couturier ajoute enfin que, dans 90% des cas, la collectivité commanditaire s'est dite satisfaite du résultat final, mais oublie, sans doute pressé par le temps, de nous dire où il a trouvé ce chiffre.
Le tableau n'est pas si idyllique, en somme. Et sur le plan technique ?
J'y arrive. Définition. Les partenariats publics-privés sont réalisés entre l'État ou les collectivités territoriales et un consortium réunissant en général les banques et les investisseurs, les entreprises de construction, BTP, et les prestataires de services. Contrairement au marché public où les entreprises n'ont que le chantier à réaliser, les PPP accordent au privé la gestion du bien construit durant plusieurs décennies en échange d'un loyer payé par l'État, dont la rémunération est fixée lors de la signature du contrat. Des équipements spectaculaires fleurissent dans tout le pays ou sont en projet. Grands stades, chantiers de rénovation, LGV, prisons, hôpitaux, aéroports. En période de rigueur budgétaire où il est de bon ton de voir les dépenses publiques réduites au minimum, les PPP sont la solution miracle pour financer ces infrastructures. Les collectivités commandent les travaux, apportent une partie des fonds, souvent sous forme de subventions. Les entreprises privées apportent l'autre partie des fonds et se rémunèrent ensuite par des loyers payés par l'État ou la collectivité dans le cas de partenariat, ou des péages payés par les utilisateurs dans le cas de concession.
Oui, il faut préciser, soit dit en passant, que cette rémunération, composée de redevances, investissements et financements, entretien, maintenance et gestion, est assortie de clauses évolutives liées aux surcoûts, aux risques et aux profits. Avec les partenariats publics-privés, le risque, entre guillemets, est ainsi assumé par le contribuable. Exemple, le stade de football n'est pas rentable. Autre subterfuge, les taux d'intérêt des crédits de construction ne sont fixés qu'a posteriori, une fois la mise à disposition du marché réalisée. Le coût est ainsi toujours plus important que si c'était l'opérateur public, le maître d'ouvrage, délégué à une société de projet, dans ce cas particulier, en même temps que le contrat en lui-même. Les banques, en fait, appliquent des taux d'intérêt plus élevés pour les acteurs privés que publics, en raison de leur plus grand risque d'insolvabilité. Le caractère global du contrat permet également à la personne privée de fixer des prix plus importants que si les diverses prestations à sa charge étaient cloisonnées. Bref, de la mauvaise gestion des deniers publics.
Oui, et Attac Charente nous a fourni un bon exemple avec la LGV Tour Bordeaux. Il a été réalisé par le groupement Lisea, composé de Vinci, de CDC Infrastructure, un filiale de la Caisse de dépôt et consignation, d'AXA Private Equity. C'est un partenariat public-privé sous forme d'une concession d'une durée de 50 ans. L'ISEA apporte 2,4 milliards d'euros, le public 5,2 milliards d'euros, composé de subventions de l'État et des collectivités pour 3,2 milliards et de contributions de RFF pour 2 milliards. La construction durera 6 ans, la fin est prévue en 2017, et le groupement L'ISEA, mené par Vinci, encaissera tous les péages pendant 44 ans, en ayant apporté moins d'un tiers des fonds. De plus, ils ne prennent aucun risque, puisque leurs emprunts sont à 95% garantis par l'État et RFF. Parallèlement, RFF perd toute ressource sur ce tronçon de ligne.
En effet, comme cela, ça ne paraît pas très réglo. Hein. C'est un dossier qui mérite d'être épluché. Est-ce que nos amis d'Attaque Charente ont pu obtenir plus de détails ?
Ils auraient bien aimé. C'est là aussi une autre des raisons pour laquelle Attaque dénonce le recours au PPP. Le secret industriel rend impossible l'accès aux annexes financières de ces contrats. Dans le cas de la LGV Tour Bordeaux, la consultation de ces annexes a été refusée par le directeur des grands projets à RFF.
Perte de transparence, perte de démocratie. Il y a d'autres raisons pour que Attac s'oppose au PPP ?
Oui, oui, un certain nombre. D'abord, les objectifs du privé, profit, rémunération maximale des actionnaires, ne sont pas compatibles avec ceux du public. Intérêt général, satisfaction des besoins des usagers. Ensuite, seuls les grands groupes peuvent contracter des PPP. Les PME et artisans sont au mieux des sous-traitants. Quatre grands groupes se partagent la très grande majorité des PPP. Vinci, Eiffage, Bouygues et Faya. Ensuite, une fois le contrat signé, l'État et les collectivités territoriales perdent la maîtrise du projet. Et enfin, les entreprises privées s'approprient ainsi des secteurs qui lui échappaient, voies ferrées, éclairage public, et se transforment de facto en banquiers du public.
Oui, l'État et les collectivités ont quelques difficultés à accéder à des financements. D'ailleurs, les emprunts qu'ils arrivent à contracter ne sont pas toujours des plus sains, voire carrément toxiques, comme on a pu le voir lors de précédentes émissions. Mais est-ce qu'en fin de compte, les PP n'ont pas une certaine utilité? Des constructions utiles aux citoyens qui voient le jour, qui ne pourraient être financées autrement?
Mais peut-être, sauf qu'au final, comme dans l'exemple de la LGV que je viens de citer, le coût est toujours plus élevé pour le contribuable. J'ai commencé en disant que les PPP avaient vu le jour en 1992 en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, 10 à 15% des investissements publics britanniques sont réalisés en PFI, Private Finance Initiative, l'équivalent britannique du PPP. Et une étude britannique du National Audit Office a démontré que les projets en mode PFI, comparés à ceux réalisés de manière conventionnelle, ont généré des bénéfices supérieurs tant en termes de respect du prix convenu que de l'échéancier de livraison des bâtiments. Mais les conséquences d'un tel mode de gestion ne sont finalement pas positives d'un point de vue financier pour le contribuable ou l'usager, car les loyers et redevances sont sur la durée très lourds. Le premier secteur bénéficiant du PFI, les hôpitaux, ont désormais de lourdes charges annuelles de remboursement. Les taux d'intérêt des emprunts sont supérieurs aux taux qu'aurait pu obtenir l'État britannique, s'il avait choisi d'utiliser l'emprunt, ce qui n'est pas le seul choix possible, et le gouvernement britannique freine désormais ce type d'initiative. Espérons que des gouvernements se prétendant moins libéraux n'attendent pas 10 ans pour l'imiter.
Et localement, autour d'Arles, y a-t-il des PPP à étudier de près?
À ma connaissance, non, mais je vais creuser les questions.
Peut-être une prochaine émission, alors. Tu reproches à Brice Couturier de ne pas citer ses sources?
Oui. Pour bien démarrer, il y a évidemment l'incontournable Wikipédia. Vous retrouvez quelques-uns des exemples indispensables pour défricher un sujet. Je recommande aussi le site du Monde Diplomatique, et particulièrement l'article de Marc Lémé sur les PPP au Canada, nuisibles à la démocratie. Et enfin, last but not least, le site d'Attaque Charente, http://local.attaque.org, Attaque 16, qui présente l'analyse de la concession des LGV Tours Bordeaux et des PPP en général.
Ne va pas, la crise par-ci, la crise par-là, on se plaint jour et nuit, on se lamente, on s'ennuie. La crise est la cause de tout, même Crésus est sans le sou. Il gagne du 100%, mais se fait du mauvais sang. Il existe un moyen pourtant d'être toujours content, c'est de croire que tout est mieux, tout délicieux, tout merveilleux, et de chanter à Dieu. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au bébé chanter joyeux, tra-la-la-la-la, et répéter encore. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur.
Ok, ben vous venez d'entendre Albert Préjean. Albert Préjean, une bonne illustration de la méthode Coué, hein, puisque cette chanson de 1934, la méthode Coué est très efficace, puisque même jusqu'en 43, Albert Préjean n'a pas eu grand chose à redire de l'occupation allemande.
Alors, Jérôme, comment se porte Attaque Pays d'Arles en ce mois d'octobre?
Eh bien, après un été assez riche, ce début d'année scolaire est plutôt calme pour Attaque Pays d'Arles. Nous avons participé à la manifestation contre la réforme des retraites. Une pétition est d'ailleurs encore accessible sur le site national, et à la journée des associations. Mais pour le mois d'octobre, j'ai encore rien à vous proposer. Nous entrons dans une phase préélectorale.
Attaque Pays d'Arles ne fait plus rien alors ?
Moi aussi, bien sûr, Attaque Pays d'Arles continue son travail citoyen en participant au CCSPL et bien entendu son travail de décryptage. À ce sujet, la plénière d'octobre, qui se déroulera lundi 14 octobre de 20h à 22h à la Maison de la Vie Associative, sera en grande partie consacrée à une discussion autour des retraites. Il n'y aura pas d'intervenant spécialiste de la question venant distribuer son savoir, mais des attaquants qui se posent des questions et viennent essayer de comprendre ensemble. La réunion est publique et tous les auditeurs s'intéressant aux retraites sont les bienvenus.
Et ce mois-ci, est-ce que Attaque sera présent sur le marché du samedi matin ?
Oui, Attaque sera présent le samedi 12 et le samedi 19 octobre de 10h à midi. Vous aurez toutes les dernières publications sur la table d'Attaque et les dernières informations auprès des attaquants qui, théoriquement, sont derrière la table.
Ok, on a autre chose ?
Oui, le programme n'est pas finalisé, mais fin novembre ou début décembre, nous prévoyons d'organiser avec la Ligue des droits de l'homme une projection débat autour de la souffrance au travail. Je vous en dirai plus lors de la prochaine émission. Ah, il y a également une halter randonnée au programme prévue pour le 20 octobre. Tous les détails seront disponibles prochainement sur le site d'Attaque Pays d'Arles.
Tu nous rappelles l'adresse ?
Ok, c'est http://local.attaque.org/13/arles. Musique.
Apporter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 50 berges sans être un saigne salaud. Je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils qu'on crucifie sur des affiches. Un doigt de scotch, un jean fixe, et tout le reste, je m'en fiche. Ils ont voté, puis après, j'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En ces temps, on ne voit pas l'herche, ils n'ont même plus de cul. Les Français, ils ont voté, puis après. C'est un pays qui me débecte, pas moyen de se faire anglais, ou suisse, ou con, ou bien insecte, partout ils sont confédérés. On les voit à la téléurne avec le général Frappard et leur bulletin dans les burnes et le mépris dans un placard. Ils ont voté puis après. Dans une France socialiste, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées. Le jour de gloire est arrivé.
Eh bien, nous arrivons enfin au moment tant attendu par nos auditeurs, signe de la fin prochaine de leur souffrance et d'un retour à une radio normale. J'ai nommé la devinette. Vincent, c'est toi qui t'y colle.
Ah, ok. Donc, qui a dit « Il revient donc dans chaque département au préfet d'engager une démarche systématique de démantèlement des camps illicites, en priorité ceux des Roms ».
Ah, facile, c'est Manuel Valls.
C'est d'actualité, effectivement, mais non.
Brice Hortefeux, alors.
C'est à peu près ça, mais pas tout à fait. C'est Michel Barre, directeur de cabinet de Brice Hortefeux, qui a écrit cela dans une circulaire du 5 août 2010. Mais il y a au moins deux points communs avec la déclaration de Manuel Valls, le nombre de réactions plus ou moins indignées qui ont suivi, et la cible, la précaire du moment, les Roms.
Eh oui, le changement avance à grands pas. Sur ces mots, il nous reste à vous rappeler que cette émission sera rediffusée le jeudi 17 octobre à 20h et qu'elle sera réécoutable en podcast sur le site de la radio 3DFM. La prochaine émission, elle, aura lieu le 6 novembre à 18h10. À bientôt sur 3DFM.
À bientôt.
C'était Un autre monde possible, le rendez-vous mensuel d'Attaque Pays d'Arles. On se retrouve le mois prochain, le premier mercredi du mois, de 18h10 à 18h40, sur 3DFM. À bientôt.
Bon, voilà. C'est bon.
Bon, c'est bon quand même.